Bonjour à toutes et à tous, 51e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée toutes les deux semaines par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Ben, tout va bien, oui, oui.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français.
Eh oui.
Et on avait fêté, je m'en remets, hein, mais je reparle du gâteau.
C'est fini la fête, fini les bougies, fini le gâteau.
50e émission.
Faudra attendre la 100e.
Hein. Ah bon, ça va venir, j'espère.
J'espère aussi.
En attendant, pour ce 51e numéro de Mémoire Aveyronnaise, Vincent, c'est quoi le programme?
Ah
oui, je sais pas.
Et oui, j'avais dit surprise.
Ben oui.
Mais tu vois, je vais te faire plaisir parce que je vais te prouver que je t'écoute.
Ah bon? Ah bah c'est bien.
Toi, tu m'écoutes, mais ouais, tu vois, moi aussi, je t'écoute.
Ah, qu'est-ce qu'il
Alors, cher David,
oui.
Peux-tu me rappeler et peux-tu rappeler également à nos chers auditeurs quelle est l'adresse de notre studio de Rodez?
Ah si, ouais, il l'a fait.
Les studios... tu me vois venir avec mes gros sabots.
Ouais. CFM Rodez, nous sommes installés dans le centre-ville de Rodez, une petite rue qui donne sur la place d'armes et qui s'appelle la rue à Bébessou.
Alors, il y a 15 jours, lors de notre 50e chronique de Mémoire Aveyronnaise, tu te rappelles, hein? Tu t'étais trompé d'abbé.
Ben oui, tout à fait.
Quand je t'ai demandé de me citer les personnages religieux dont nous avons parlé jusqu'à présent dans notre chronique, au lieu de me citer l'abbé, alors tu vas pas me redire l'abbé Bessou.
Non, je vais pas te redire l'abbé Bessou.
L'abbé Charles Carnus.
Ah voilà.
Le célèbre abbé Volant.
Eh oui, celui qui fait le tour de.
Tu sais que ma femme avait été obligée, était dans le studio, elle avait été obligée de battre des ailes pour t'indiquer l'abbé Volant.
C'est vrai.
Même avec ça, t'avais pas trouvé. Donc tu m'avais donné le nom de l'abbé Bessou.
Et oui.
Eh bien, tu vois, cette erreur va être aujourd'hui corrigée car c'est notre sujet. Nous allons parler enfin de ce cher abbé Bessou.
Bon, super, très bonne nouvelle, parce que moi, à part voir le panneau et voir son nom, je ne sais rien de l'abbé Bessou.
Eh bien voilà, donc tu vas savoir.
C'est une histoire qui se passe à quelle époque? On est quand?
Alors, écoute, Justin Bessou est né le 31 octobre 1845.
Ça ne nous rajeunit pas.
Donc nous sommes sous...
45, sous Louis XVIII ou Charles X.
Louis XVIII meurt en 22.
Ah bah, Charles X.
Charles X abdique en 1830.
Ah merde, 42, alors 42, on nous sommes
sous... Non, 45.
45. Bon, on est sous la Deuxième République.
Oh,
non, le... Ça va lâcher l'heure, là, il manque quelque chose.
Le régime de Juillet. Nous sommes sous le règne de Louis-Philippe.
Ah merde,
la monarchie de Juillet.
Ah oui, j'ai dit Louis XVIII, c'est Louis-Philippe dans ma tête qu'il y avait.
Louis-Philippe, le roi républicain.
Oui.
Alors, il naît au hameau de Méjalanou, sur la commune de Saint-Salvador. Saint-Salvador, Saint-Sauveur, ça veut dire, hein, en occitan.
Ouais, mais
je parle d'occitan parce que, en fait, ça va être quasiment le sujet de cette chronique.
Ah bon, d'accord.
Avec l'abbé Bessou.
Mais c'est vers où, ça?
Alors, c'est entre Villefranche de Rouergue et Rioux-Pérou.
Ah d'accord, ok.
Dans le bas Ségala.
Ça existe toujours?
Ah, toujours.
Ah bah, tu vois, toujours, pas toujours. Encore passé.
Ça n'a pas été rasé,
non,
ni par les Allemands, ni par les Anglais. Non, ça existe toujours.
Bon, tant mieux.
Alors, ses parents sont agriculteurs et il fait partie d'une fratrie de 8 frères et sœurs. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Il est un très bon élève et il se destine très jeune à la prêtrise. Après des études religieuses au grand séminaire de Rodez, il est ordonné prêtre en la cathédrale de Rodez en 1871.
Mmh.
Il commence son ministère comme vicaire à Saint-Geniez-d'Olt de 1872 à 1877.
D'accord, classique.
Puis vicaire à Marcillac.
D'accord, il reste.
En fait, les vicaires, c'est un prêtre, mais c'est pas un curé.
Alors, c'est quoi la différence ?
Le curé, c'est le responsable d'une paroisse. C'est le responsable.
Ah.
Curé, c'est le responsable d'une cure.
D'accord.
Et en dessous de lui, il a des vicaires.
D'accord.
Et il y a aussi le mot vicaire général, tu vois, mais qui est beaucoup plus au-dessus. C'est aussi un vicaire, mais lui, c'est le vicaire de l'évêque, en fait, le vicaire général.
Donc
il est directement sous l'évêque.
Ok. C'est un adjoint, quoi.
C'est ça. Donc à Marcillac, de 1877 à 1881.
Mm-hmm.
Il est ensuite nommé curé, cette fois, de la paroisse de Le Bousse, près de Riquista, durant 5 ans.
Mm-hmm.
Puis il est doyen de Saint-André de Najac en 1886. Alors doyen, c'est encore autre chose.
Ouais,
il y a des regroupements de paroisses.
Ouais. Ah, déjà à l'époque?
Ouais, déjà à l'époque. Ouais. Regroupements de paroisses qui sont regroupés en doyennés.
Ah,
et donc le doyen, c'est le prêtre référent de ce doyenné.
D'accord.
Donc, de plusieurs paroisses.
C'est de là que vient le mot.
C'est de là que vient le mot.
Ouais,
doyen, ça vient le mot de doyenné.
D'accord. Donc là, vers 45 ans à peu près.
Voilà.
Il se retrouve doyen.
Il se retrouve doyen.
Mm-hmm.
Mais toujours, tu vois, dans le même secteur. Il est également gratifié du titre de chanoine de la cathédrale de Rodez.
Bon, alors pendant qu'on y est, excuse-moi Vincent, je ne suis pas très fort. Chanoine, c'est quoi la différence entre chanoine, vicaire,
alors,
curé?
Les chanoines, en fait, constituent le chapitre de la cathédrale. En fait, c'est un titre honorifique.
Oui.
À la cathédrale, il y a un collège de prêtres qui sont gratifiés de cet honneur de chanoine.
Ouais.
Ils sont rattachés à la cathédrale de Rodez, mais c'est vraiment honorifique.
Hein. Honorifique, c'est-à-dire qu'ils ont une robe spéciale, ils ont
un costume spécial. Chaque chanoine, alors moi j'ai la chance d'en avoir une, c'est des croix qui sont très belles.
Des chanoines ?
Ils portent une croix pectorale. Non, pas moi.
D'accord.
Ils portent une croix pectorale sur la poitrine,
oui.
Un peu comme l'évêque, mais c'est une croix différente. Ils ont tous la même. Avec un très très beau ruban très large qui est blanc et bleu aux couleurs de la Vierge.
D'accord.
Donc c'est un titre vraiment honorifique.
Mais c'est intéressant à savoir. Maintenant, je regarderai mieux.
Alors actuelle où malheureusement tout a tendance à se perdre un peu dans l'Église.
Il y a toujours des chanoines.
Non.
Ah bon?
Pas à Rodez.
Ah pas à Rodez.
Non, pas à Rodez.
Ah, il y a pas de chanoines à Rodez.
Non, plus depuis très longtemps. Il y a des chanoines dans d'autres, dans d'autres diocèses, à Rodez, non. Alors, Monseigneur Meyer, qui a l'air attaché à quand même quelques traditions dans l'Église.
Oui.
Peut-être un jour, lui voudra remettre ça au bout du jour. Il peut, puisque c'est l'évêque qui décide.
Ouais, mais après, il faut des candidats, des personnes qui seraient susceptibles d'être.
Ça manquerait pas, parce que c'est un beau titre quand même. C'est vraiment un titre honorifique.
Merci pour toutes ces informations. Cette culture.
Alors, il est un brillant théologien et un très bon latiniste. Mais en fait, ce n'est pas pour ça et pour son ministère de prêtre qu'il est très très connu dans et hors des frontières de notre beau Rouergue.
Ah, il est connu aussi en dehors des frontières du
Ah oui, de l'Aveyron. Oui. Parce que, en fait, l'abbé Bessou est un formidable orateur, un écrivain et un poète occitaniste de talent.
Grand
occitaniste.
D'accord.
Donc, l'Occitan, tu sais, ça sort un peu des frontières. Surtout que tu vas voir un grand personnage
mais
de la langue occitane.
Quand tu dis qu'il a écrit sous son nom de chanoine, d'abbé, de doyen, de prêtre ou sous un pseudo.
Non, Abbé Bessou.
Ah d'accord, ok.
Ouais, Abbé Bessou.
D'accord.
C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mm-hmm. Alors, il magnifie notre belle langue d'oc avec beaucoup d'émotion, d'ironie et parfois même de satire.
Ah oui, carrément.
Il est considéré par beaucoup comme étant le père de la renaissance de la langue d'oc en Rouergue. Donc tu vois, quelqu'un vraiment
d'important.
De très important.
Ben oui.
Son fichu caractère et son humour apparemment étaient légendaires à l'époque. Alors quand je te dis que c'est un grand occitaniste, il est élu majoral du Félibrige en 1902 lors des fêtes félibréennes de Béziers en présence du grand maître Frédéric Mistral.
Eh voilà, parce qu'on en avait déjà parlé de Félibrige, tu me l'as expliqué.
Oui, c'est lui qui a créé ça. Et en fait, voilà, c'est le troisième majoral du Félibrige dont nous parlons dans nos chroniques.
Ouais.
Nous avons parlé de Jean-Henri Fabre.
Tout à fait,
dans notre chronique numéro 39.
L'entomologiste, botaniste, artiste.
Voilà. Et aussi de Joseph Vaillet dans la chronique numéro 43.
Eh oui, tout à fait, qui était super aussi, que je conseille de retrouver sur cfmradio.fr.
Et qui est ma préférée.
Ah oui, c'est vrai, on l'avait dit,
la 50e.
C'est vrai.
Alors, je rappelle que majoral du Félibrige, en fait, est une personne très méritante dans la culture et dans la langue occitane qui est élue chaque année.
Ouais.
À ce titre-là, et pour vraiment, c'est vraiment un titre honorifique, c'est la personne la plus méritante de cette langue et de cette culture occitane.
En quelle année il a été élu, tu l'as dit?
En 1902.
1902, d'accord, début du 20e siècle.
Ouais. Ouais, tout début. Et en fait, cette distinction est matérialisée par une broche représentant une cigale d'or que chaque majoral porte sur la poitrine. C'est sa distinction.
C'est
une très très belle cigale d'or. L'abbé Bessou publie de nouveaux ouvrages, poèmes et même des chansons.
Ah ouais, dis-donc.
Voici en fait les plus connus. Merle et Fauvette, publié en 1877. D'Albrèze à la Bunto.
Bien.
Désolé pour mon accent occitan. Du berceau à la tombe, ça veut dire.
Ah, c'est d'accord.
Il s'agit vraiment de ces deux ouvrages vraiment qui ont fait un tabac à l'époque
et qui
continuent même encore aujourd'hui à vraiment intéresser.
À exister déjà. Mais non, mais quand tu dis faut faire un tabac à l'époque, faut peut-être pas pousser. On reste dans un livre déjà en occitan.
Ouais, pas au niveau.
C'est pas Victor Hugo.
Pas au niveau. Non. Ouais, okay. Non, mais un tabac au niveau au niveau régional.
D'accord.
Même pas départemental, vraiment au niveau régional.
D'accord.
Du berceau à la tombe, en fait, il s'agit de poèmes en 12 chants. édité en 1892.
D'accord. Ouais. Et donc, pas forcément des thématiques foncièrement, fondamentalement catholiques.
Non. Ah non, mais tu vas voir. Ah ouais. Tu vas voir les titres. Je continue. Vas-y. Ça, c'était vraiment les deux principaux. Lyre et guitare, publié en 1898.
Ouais.
Comtesse de la Tata Manu. Donc les contes de la tante Manou.
Ah ouais, j'aurais presque réussi à traduire là, tu vois.
C'est ça, ben ouais, c'est ça. C'est y a certains mots qui sont assez simples, qui ressemblent un peu à l'espagnol, un peu, c'est les langues latines. Publié en 1902, Bagateleros. Alors, petite bagatelle.
Ah, oula.
La bagatelle, tu vois, c'est assez cocasse.
C'est surtout coquin, moi,
comme,
je trouve.
Alors, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais rien que le titre, ça laisse présumer d'un peu de coquinage.
Oui.
Alors, publié en 1903. Donc, tu vois, tu me disais, un prêtre publie pas forcément du religieux, mais voilà.
Oui, non, apparemment, pas que. Oui, pas que.
Ouais, pas que. Besucarietos, donc petite futilité, publié en 1906. Comtesse de l'oncle Jeannette.
Ah ouais,
donc,
après la tante, l'oncle.
C'est ça. Ouais. Les contes de l'oncle Jeannet, publié en 1910. Soubenis et Mescladis.
Ouais.
Mescladis. T'as jamais entendu ça?
Si, ça je connais. Un mélange, une salade.
C'est un mélange, voilà, Mescladis. C'est quelque chose qu'on emploie.
C'est familier.
Assez couramment. C'est Souvenir et Mélange, publié en 1913. Alors moi j'ai une petite anecdote, c'est que. Je parle pas occitan. Ma grand-mère, qui vivait, j'ai vécu dans une maison familiale, avec plusieurs générations. Ma grand-mère parlait couramment occitan.
Ouais.
Dès que quelqu'un de la famille venait, il parlait qu'en occitan. Donc, je connais quelques mots, quelques sons. Mais en fait, ce qui est vraiment curieux, c'est que entre nous. Dans le français, on employait des mots en occitan.
Ah bah oui, mais ça, on voit encore beaucoup.
Et tellement, et tellement. Que en fait, c'est des mots qui sont courants. Tu fais même pas la différence entre du français et l'occitan. En 2000, je suis parti pendant 15 ans à Bordeaux. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes?
Moi, c'est pareil, quand je suis arrivé en Aveyron, des gens, ils parlaient français, mais de temps en temps, dans leurs phrases, les gens, ils me disaient un mot qui pour eux était évident, était français, mais je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le plus drôle, ça pègue, c'est quoi, ça pue, ça? Non, ça colle!
Moi, il y a eu finité, il y en a eu plein.
Finité, finité. Mais t'as certains mots, en fait, au bout d'un moment, tu te rends même pas compte et t'as l'impression que c'est du français, quoi. Donc, quand les gens sont pas d'ici, forcément, ça, c'est un peu bizarre. Alors, ensuite, nous avons Bespardos de l'oncle Polito.
Ah bah il avait une famille nombreuse.
C'est ça. Il y a, ça. Il y a beaucoup d'oncles, il y a beaucoup d'oncles et tantes. Les soirées de l'oncle Hippolyte.
Ah.
Alors celui-là, par contre, a été édité après sa mort en 1923.
1923, il meurt. Ouais. D'accord.
Non, il meurt pas en 1923. Lui meurt, on va voir ça en 1918. Ah, d'accord. Mais celui-là a été publié cinq ans après sa mort en 1923. Alors, ces œuvres ont été très largement rééditées et peuvent encore se trouver chez les libraires parce que c'est vraiment un gros succès, gros succès, même de nos jours. Il puise directement son inspiration dans la tradition orale et dans le vécu de son temps, dans cette campagne du Bas-Ségala. Même de nos jours, au milieu du XXIe siècle, l'œuvre de l'abbé Bessou conserve une inaltérable fraîcheur et un incomparable intérêt linguistique, ethnographique et littéraire.
Bah, si tu le dis.
Vraiment. Tu vois, je sens que je vais te donner envie de lire la
Bible. Ah oui, mais ça, c'est. Ça, probablement.
Tous les défenseurs de la langue occitane, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient mécréants, quelle que soit leur sensibilité, s'accordent tous à le reconnaître comme un maître incontesté de la langue et de la culture occitane.
Très bien.
Tu vois, il réunit.
Il a fait
même le fait qu'il soit prêtre. Ce qui est magnifique, c'est qu'il arrive à réunir vraiment tout le monde.
Voilà, surtout à cette époque-là, au début du XXe, c'était tendu hein, entre les croyants et les non-croyants. On n'était pas loin de la séparation de l'Église et de l'État.
Oui. Enfin, voilà. Même encore, tu sais.
Oui, moins qu'à l'époque. Attends.
Alors, pour nous mettre un peu dans le bain de cette culture et de cette langue occitane, je vous propose, tu te rappelles, j'avais dit qu'on avait parlé chansons, on avait parlé musique, j'avais dit qu'on n'en passait pas assez. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un très beau chant religieux qui est beaucoup chanté justement dans le Ségala.
Ah.
Il s'agit du chant « O Berga de las Montañas »,« O Vierge de la Montagne ».
Je préfère quand tu le dis en français.
Thank you. aimé nous Nostradamus boule nous aime mama des tout cure et des tout amant vous aime
Vincent, c'est pas a priori mon style, mais j'ai bien aimé. C'est
ouais,
très beau.
C'est vraiment très beau. C'est vraiment
la Vierge de la Montagne, c'est signé Justin Bessou, la Bébé Sou.
Alors non, malheureusement ah. Non. J'ai voulu, chers auditeurs, vous le faire écouter, ce très beau chant, parce que j'ai cherché, ouais. J'ai des titres, j'ai cherché pour voir si un peu sur Internet on pouvait trouver de la musique ou des chants
ouais,
donc
des
justement signés à Bébé Sou. J'en ai pas trouvé.
Ah merde.
Par contre, celui-là résume bien cette chronique, parce que bah, déjà c'est un chant religieux et oui. C'est quand même la Bébé Sou. C'est quand même un religieux.
Oui.
Et puis, c'est bien sûr un occitan. Et lui qui est natif et qui a passé toute sa vie dans le presque toute sa vie dans le Bas-Ségala,
ouais.
C'est un peu alors côté religieux bien entendu, c'est un peu l'hymne du Bas-Ségala, enfin du Ségala.
La Vierge de la Montagne.
Ouais, la Vierge de la Montagne.
D'accord.
Moi je sais que je l'ai souvent entendu lors de pèlerinages ou lors de messes un peu spéciales. Voilà, c'est vraiment un très beau chant. Non, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver d'enregistrement de chansons signées par la Bébé Sou.
Mais bon, bah, ça a plus de 100 ans, hein, ça doit,
oui,
ça doit exister.
Oui, ça doit exister.
On va continuer de chercher.
Alors, en 1906, la Bébé Sou demande à se retirer à Rodez pour raison de santé.
Ah, qu'est-ce qu'il avait ?
Il a 61 ans.
Ouais, mais bon.
Je sais pas trop, non. J'ai pas trouvé. Peut-être un peu de fatigue.
Raison de santé.
Un peu de vieillesse. Tu sais, 61 ans,
oui,
au début du XXe siècle.
Oui.
C'est, pas 60, c'est pas 61 ans de maintenant.
Oui, d'accord.
C'est pas 61 ans de maintenant. Donc, peut-être un peu de fatigue. En 1912, il part habiter chez sa sœur, Caroline, à Villefranche-de-Rouergue, au numéro 11 de la rue de Belle-Isle. Il meurt le 29 octobre 1918, quelques jours à peine avant l'armistice du 11 novembre. Tu vois que vraiment, il aurait pu connaître l'armistice,
mais non.
Ça s'est passé de peu. Alors en fait, il se dit qu'il pourrait être mort de la grippe espagnole.
Ah bah en tout cas, c'est l'époque.
En tout cas, c'est l'époque.
Niveau timing, on
tout
est
à
bon.
Fait. Niveau timing, on est bien.
Ouais.
Il repose au cimetière de son village natal de Saint-Salvador. Alors, j'aime bien, tu sais, quand je parle de personnages, finir par les hommages.
Oui.
En plus donc de ses livres qui sont régulièrement réédités, comme on vient de le voir, Villefranche de Rouergue a décidé de l'honorer en lui érigeant un monument qui se trouve près du Lot, entre l'église des Augustins et un petit amphithéâtre. Voilà, sur une place.
Ouais.
Ce monument est très original.
C'est quoi ?
Il se présente sous la forme d'un piédestal en calcaire surmonté d'un buste donc de la Bébé Sou sculpté par Denis Puech. Alors, c'est pas ça qui est original.
Non, parce que c'est
assez classique.
Ouais.
Ce qui est joli et original et pratique,
oui.
C'est qu'en fait, de chaque côté de ce piédestal, le monument adopte la forme de deux bancs publics.
Ah,
t'as un banc de chaque côté.
Oui, c'est bien.
En pierre.
D'accord.
Englobé dans le monument.
Ouais.
C'est vraiment,
mais je crois que
c'est vraiment très joli.
Ça
te dit quelque
chose ? Je vais de temps en temps à Villefranche, rarement, mais je crois que je vois très bien.
Et en fait, le dossier de chaque banc est galbé et imite la forme d'une accolade. C'est vraiment assez joli. Ouais. Puis c'est pratique parce que moi qui connais quand même pas mal de monuments,
ouais.
Des monuments comme ça qui servent aussi de banc,
oui.
C'est sympa. Bah, hein,
c'est ça, je vais joindre l'utile à l'agréable.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Il est élevé grâce à une souscription publique qui est ouverte en décembre 1918, vraiment très tôt après sa mort.
Ouais.
Sur l'initiative de Joseph Hilde, avocat et fait libre également,
lui-même,
d'origine villefranchoise.
D'accord.
Le monument est commandé au début de l'année 1919 à l'architecte Eugène Vergne, c'est bien un nom aveyronnais ça, hein, et au sculpteur villefranchois Raphaël Vessière. Il est inauguré le 16 octobre 1920.
Là, ça n'a pas trop traîné.
Si le sujet vous intéresse, je ne sais pas si elles sont visibles ou si elles sont cachées dans les réserves, mais deux maquettes en plâtre du monument sont conservées au musée municipal Urbain Cabrol de Villefranche-de-Rouen.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà. En 1920, la rue de l'officialité à Villefranche change de nom et devient la rue Abbé Bessou.
Ouais, c'est vrai que la rue de l'officialité, c'était pas terrible.
Non, c'est vrai. Hein,
c'est pas... sûr. Ouais. Voilà.
C'est sûr.
1920
Pareil, la même année, ouais,
d'accord,
1920.
D'accord.
J'ai trouvé
pas
mal de rues à Bébé Sou.
Ah bah, il y a la nôtre.
Eh bien évidemment.
Tu vas y dire.
Rodez,
oui.
Où se trouvent nos studios.
Oui.
À Millau.
Oui.
À Requista.
Normal.
Et j'ai également trouvé deux places à Bébé Sou. Une place à Bébé Sou à Lessac et une autre place à Sainte-Afrique. Alors, il est possible que j'en oublie.
C'est pas impossible. À Saint-Salvadou, non, ils ont rien fait.
Si, ils ont fait.
Avant.
Je sais pas s'il y a une rue. J'ai pas trouvé.
Il y a peut-être plus trop de rues à Saint-Salvadou.
Mais si, maintenant c'est obligatoire, tu sais. Il y a une nouvelle loi là qui est sortie il y a quelques mois, comme quoi toutes les municipalités devaient avoir. T'as plus le droit pour une municipalité d'avoir un numéro de rue.
Ah bon?
T'es obligé d'avoir un nom pour chaque rue.
D'accord.
C'est un règlement national qui est passé pour les mairies il y a un an, quelque chose comme ça.
Ça va libérer de la place pour la Bébé Sou.
C'est ça. Et en fait, voilà, beaucoup de municipalités se crèvent un peu la cervelle pour essayer d'avoir des numéros.
Oh bah, ils ont qu'à t'appeler parce que t'en as, toi, des noms.
C'est ça, oui, moi j'en ai.
Problème.
Bah, déjà,
besoin,
mais Arnaud Dumont. Ou toi.
Ouais.
Justement, je me pose une question. T'as déjà visité Oradour-sur-Glane? J'ouvre une parenthèse.
Tout à fait. J'étais enfant, mais je m'en souviens très bien.
Tu es allé à Oradour-sur-Glane le 9.
Hein? La nouvelle ville.
Le village a été reconstruit.
Je m'en rappelle plus, tu sais. Moi, je me rappelle du village.
C'est très triste. C'est, je sais pas si l'architecte venait d'Allemagne de l'Est, mais c'est pas très gai.
Bah, ouais,
pourtant, c'est un village neuf. Hein, c'est pas.
Ouais.
Et alors, ce qui est surprenant, Oradour-sur-Glane.
Bah, en même temps, s'il faisait Disneyland à côté du truc où tout le village a été cramé dans l'église.
C'est sûr. Mais bon, tu vois, c'est. Pas ça, ben ouais, trop triste non plus, il y a des gens qui y habitent quand même.
Ben oui.
Et là, c'est surprenant parce que c'est pour ça que j'en parle, je fais une parenthèse. Alors, je sais pas s'ils vont être obligés, eux, de pouvoir mettre des noms dans les rues ou s'ils peuvent garder cette particularité. Mais en fait, Oradour-sur-Glane 9 n'a pas de nom de rue. C'est que des numéros.
Oui, ce qui peut se comprendre.
Ça peut se comprendre.
Pour rester un peu. Voilà.
C'est ça.
Mais
si tu veux, ne pas empiéter sur le souvenir de l'ancien Oradour qui a été brûlé avec toutes les rues. Ils n'ont pas voulu remettre les noms de rues, c'est des numéros. Mais j'espère qu'eux, tu vois, pourront garder cette particularité et qu'ils ne seront pas obligés, avec cette loi, de nommer chaque rue. Pour eux, ça serait dommage.
On va suivre ce dossier, Vincent.
C'est ça. Alors, donc la commune, comme tu me l'as demandé, la commune de Saint-Salvadou, elle a également érigé un monument. Il y a un monument à la Bébé Sou.
Ouais.
Assez simple.
Une pierre.
En pierre avec, je crois qu'il y a un médaillon de bronze qui représente son profil.
C'est déjà pas mal.
Joli.
Oui.
Mais moins impressionnant.
Bah, c'est Salvadou, c'est pas.
Et puis c'est un monument moderne, tandis que Villefranche, c'est quand même 1920.
Ouais, ok.
Alors, sa maison natale existe toujours à Saint-Salvadou. Mmh. Alors, sauf erreur de ma part, je pense qu'elle ne se visite pas, parce que j'ai essayé de chercher un peu, j'ai rien trouvé sur d'éventuelles visites. Donc, sauf erreur de ma part, je pense que la maison doit être privée.
Mmh. Oui, et puis après, en même temps, moi, je me dis, une maison de prêtre, ça ne doit pas être le truc, à part une table, une chaise et
un
crucifix.
C'est pas sûr, parce que ça peut être réaménagé à musée. Hein.
Ouais.
Comme nous avons vu justement pour Jean-Henri Fabre, où c'est une maison vraiment de gens très modeste, mais réaménager un petit musée sur Jean-Henri Fabre.
Ouais.
Donc,
mais il y a quand même
tout dépend ce que t'en fais.
Voilà, il y a quand même peut-être plus de choses à montrer avec Jean-Henri Fabre. Tu mets des insectes, tu mets des plantes, tu mets des, je sais pas quoi, les paysages où il est allé.
Non, en fait, c'est
jusqu'à la bébé sous. Bon.
En fait, même pas. C'est garder. J'en avais parlé lors de la chronique. Ouais. C'est garder vraiment l'état de l'époque avec le mobilier de l'époque.
Bon, d'accord.
Ce qui est joli aussi.
Oui.
Il y a quelques petites explications, quelques panneaux, donc c'est assez intéressant. Après, tout dépend de ce que tu en fais, mais c'est vrai que ça pourrait être ouvert pour les amoureux de la langue occitane. Hein. Pourquoi pas ?
Oui, il y a sans doute quelque chose à faire.
Ouais, ouais. Alors voilà donc la belle histoire de ce chantre de Nostra Pulite Languedoc. De notre jolie Languedoc.
Bravo Vincent, bravo à toi. Et merci encore pour toute cette culture, ce partage de connaissances avec aujourd'hui la Bébé Sous.
Ben avec plaisir.
Je rappelle que CFM Rodez est installé rue de la Bébé Sous dans le centre-ville de Rodez. Bon, merci beaucoup Vincent.
Merci.
On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. J'espère bien, la 52e, t'as une idée ou pas ?
Alors, on m'a confié des documents sur un Aveyronnais, un Ruthénois qui a fait de la résistance.
Oui.
Pas en Aveyron, mais un peu en dehors.
Ouais.
J'ai pas eu le temps de consulter encore, donc je veux pas m'avancer en disant que je ferai ça sur lui, mais ça pourrait peut-être parler donc de la résistance.
D'accord, donc la Seconde Guerre mondiale, peut-être dans deux semaines avec toi Vincent, dans Mémoire Aveyronnaise. Merci beaucoup.
Merci.
En attendant, bonne journée.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.